La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduque Action.
Amis de la web radio Éduque Action, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce jour pour un autre numéro de votre émission Chronique en débat. Cette émission qui décrypte chacune des chroniques du philosophe et planificateur de l'éducation, Maudie Johnson. Et cette fois-ci, nous faisons une incursion dans les VBG. Entendez, violence basée sur le genre. De quoi peut bien parler cette nouvelle chronique de Maudie Johnson? Un tour à la régie pour le savoir.
Une petite fille reste encore un enfant. Elle ne peut être une mère ou une épouse. Laissons-la grandir pour qu'elle vive une vie épanouie. Disons-nous au mariage des enfants.
Une fille d'aide, yéni ouin ouin bordo ya souwe. Boda souwe ton, pa ou tout nan non la na ye. Ye kana oule, ye kanu kanu. Bose na papa da ole, e na gbazi da kona. Bo vire non jaje ke tu asu kwe mi gbe.
Igu de obi kwe mo duro ke ya iba. Igu de obi kwe mo kuro we ibaba. Basa, balu te mpa iba. Kwa ika ule ba. Bi kwe mo mwara kunwa.
Une petite fille reste encore un enfant. Elle ne peut
Retour dans ce studio, vous l'aurez certainement compris à travers ce coup intermède musical. Dans sa chronique du jour, Maudie Johnson nous emmène dans l'univers du mariage forcé dans certaines de nos traditions. Mariage forcé, on en parle aujourd'hui dans ce numéro de Chronique en débat. La quintessence de la chronique de Maudie Johnson, la voici pour vous avec l'aide de Rodrigue Arotondi qui nous prête sa belle voix.
Violence, j'ai aimé. Moi, c'est Fatih. En ce moment où la planète entière s'inquiète des violences faites aux femmes, je voudrais donner mon témoignage. Aujourd'hui, je suis marié et c'est ma famille qui a choisi pour moi. Le plus curieux de l'affaire, c'est que je ne regrette pas. Quand je pense aux événements qui m'ont amené dans la case de mon homme, je me dis que si c'était à refaire, je trouverais un autre moyen qui me mènerait soit auprès d'un de mes enseignants qui me poursuivait de ses assiduités, soit vers le jeune et pétillant Moussa, un de nos camarades. Le premier, au demeurant timide, n'arrivait pas à se décider à me terrasser, comme on dit chez nous. Tout le monde était d'accord que c'était un beau parti. Un enseignant, il n'avait rien de mieux dans nos villages. Le second, plein de bagou, me jurait que son cœur ne battait que pour moi, lui qui allait devenir un grand lettré. Un peu plus tard, après mon mariage, il engrossa ma meilleure amie et se résolut à devenir un paysan pour nourrir sa famille. Chez nous, c'est rapide. Tu prends femme, tu t'occupes d'elle. Mon histoire est venue d'assez loin. Le premier problème qui se posa à moi, ce fut lorsque j'eus pour la première fois mes menstrues. C'est connu. Chez nous, une femme qui arrivait à ce stade devrait automatiquement se marier. La famille, dans les mois qui suivaient, réglait le problème en cherchant un prétendant. Par chance, mes premières règles apparurent alors que j'étais à la maison avec ma mère. Face à sa fille apeurée, elle réagit au quart de tour, me montrant ce que je devrais faire, en m'intimant l'ordre de ne rien dire autour de moi si je voulais continuer l'école. Ma mère, à l'évidence, n'était pas pressée de me marier, ou plutôt, elle se demandait si le professeur du collège allait se décider à sauter le pas. Le collège était à quelques kilomètres de notre village perdu et nous y allions tous les matins en groupe. Il semble que j'étais une fille qui développait une beauté naturelle, sans chichi. Je sentais déjà beaucoup de regards qui m'examinaient, me soupesaient et se demandaient si je serais un bon parti. Malgré mes 16 printemps, je me rendais compte de beaucoup de choses et à l'évidence, à âge égal, j'avais de loin plus de maturité que les filles de la ville. Mes 16 ans valaient plus que leur majorité. Sur le chemin de l'école, nous passions toujours devant la plus grande ferme du village et à chaque fois le fils aîné venait nous voir, aller faire l'école. Il restait immobile, comme perdu dans ses pensées. Certaines de mes camarades cherchaient à attirer son regard car c'était, dit-on, l'un des plus beaux partis. Mais il n'en avait cure. Et lorsque nous continuions plus loin, ils s'enfonçaient et disparaissaient dans la végétation protectrice entourant leur champ. Sa venue était maintenant quotidienne et souvent au soir, il nous gratifiait d'une apparition protectrice sur cette longue route. Ne vous méprenez pas, il n'avait rien du prince charmant. Il s'habillait plutôt mal et semblait avoir besoin d'être mieux nourri, lui qui venait d'une grande famille. De l'autre côté, la famille s'étonnait qu'une fille de mon âge n'ait pas encore ses règles. Et on commença à se demander si ma mère, cette femme dont tout le monde connaissait le caractère entier et la capacité de braver certaines coutumes, ne cachait pas quelque chose. Le village étant petit, tout se sut bientôt. D'abord mon père remarqua notre manège et demanda à sa femme. Il eut un bref échange et mon père se rangea à l'avis de sa femme. Mon père, de naturel calme, laissait sa femme rentrer dans toute cette transe, mais prédit que bientôt cela se saurait. En effet, une vague tante inquisitrice, à 16 heures, remarqua le nombre de toiles servant à gérer le processus. De bouche à oreille, tout le village fut au courant et quelques sages, parents et amis, nous visitèrent. Chacun répétait « La tradition est la tradition ». Ma mère m'appela et me demanda si l'école continuait à m'intéresser. Je répondis oui, mais en réalité, ce qui intéressait toute notre jeunesse du village, c'était cette escapade perpétuelle que représentait l'école qui ne nous apprenait strictement rien qui soit lié à l'évolution de nos milieux. Pire, on dévalorisait la large majorité qui s'occupait des champs pour nourrir les autres. Non, l'école ne me plaisait pas par son contenu, car elle ne nous donnait rien à appliquer et nous éloignait de nos parents. Ma maman réfléchit toute la nuit et me dit au petit matin « On va suivre la tradition et tu vas te marier maintenant que tu as 18 ans ». Je fus rempli d'émotion car j'étais convaincu qu'elle allait trouver la solution pour me sortir de ce piège. Elle constata mon grand désarroi. « Ne t'en fais pas, je ne les laisserai pas te donner à n'importe qui ». Bientôt, on vint nous dire que le prétendant était trouvé et que c'était le plus beau parti des alentours. On organisa un rendez-vous entre un parent et enfant et quelle ne fut pas ma stupéfaction de découvrir que c'était le jeune homme qui nous observait sur la route de l'école. La violence, j'ai aimé.
Merci à Rodrigue Arotondi qui vient de nous livrer le contenu de la matière réflexive du chroniqueur Maudie Johnson. Le mariage forcé, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et pour aborder le sujet, j'ai avec moi dans ce studio deux invités, pas des moindres, des figures très engagées dans la protection des droits des enfants, de la femme, mais qui œuvrent aussi pour l'atténuation des VBG au Bénin. Une organisation non gouvernementale avec des idéaux et des objectifs assouvis qui promeut et défend les droits des femmes, des enfants et des adolescents depuis novembre 2001. Cette ONG, je précise, a été fondée par Dame Gladys Élise Marie Ayatode. Assovi aujourd'hui est représentée par André Alironou, qui en est le psychologue et coordinateur des programmes. Bonjour André.
Bonjour Gloria.
Merci de marquer votre intérêt pour cette émission.
Le plaisir partagé. Merci beaucoup.
Rosalie Rumbo est l'autre invitée de cette émission. Elle est membre du Parlement des jeunes du Bénin. Rosalie Rumbo, bonjour.
Bonjour Gloria.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Au plaisir.
Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de ce sujet qu'est le mariage forcé. D'ores et déjà, ma première question, elle s'adresse à vous Rosalie. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention la chronique de Maudie Johnson tout à l'heure. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Merci Gloria. La chronique de M. Maudie Johnson aujourd'hui, elle est assez particulière. D'habitude, quand on parle de mariage forcé, on s'attend souvent à ce que la victime regrette. Mais dans cette chronique, la victime, elle est plutôt contente, elle est plutôt heureuse de se marier de façon précoce. Et je pense que ça varie quand même d'une victime à une autre. Parce que dans certains cas, la victime, elle est souvent malheureuse parce qu'elle n'a pas pu peut-être atteindre ses objectifs qu'elle se serait fixé.
Merci à vous. André, à vous, je repose la même question. Que vous inspire cette chronique de Maudy Johnson?
Mais je pense que Maudy Johnson nous amène à réfléchir d'une manière, je vais dire, à réfléchir solution et non problème à partir de cette chronique. Et je suis d'accord avec la consoeur qu'elle est un peu particulière. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la manière de présenter le mariage forcé. J'ai bien aimé parce que ça dépeint un peu déjà l'environnement socioculturel, les pesanteurs socioculturelles. Ça dépeint un peu l'engagement ou l'implication des parents et aussi de l'individu, un peu ses ressentis et tout le reste. Donc, une analyse vraiment holistique où on analyse autour de soi, on finit par décider. Juste pour dire, le mariage précoce ou forcé ne vient pas aussi d'un coup comme ça. C'est toute une organisation autour et ça ne se décide pas parce que les parents sont méchants ou que la fille, je ne sais pas. Mais l'image qu'on a l'habitude de présenter du mariage forcé avec toute la violence, oui, le fait en lui-même est en finalité une violence. Mais là, il nous présente toutes les réflexions qui sont faites. Peut-être dans la suite, on verra quel est vraiment le bon parti de cette fille en choisissant cette option, si encore elle a choisi.
Merci à vous, André. La chronique, elle parle d'une jeune fille qui a eu ses menstrues à l'âge de 16 ans. Elle parle aussi d'une communauté qui se veut respecter une tradition selon laquelle une jeune fille, dès ses premiers menstrues, devait automatiquement se marier. Pour vous, Rosalie, les menstrues sont-elles le symbole même de la maturité de la femme?
Non, les menstrues ne sont pas le symbole de la maturité même, puisque la jeune fille peut avoir ses menstrues même à 9 ans. Mais à 9 ans, on ne peut pas dire que l'enfant est déjà mature. Pour moi, la maturité commence, elle est vraiment présente à partir de 18 ans, où la jeune fille a déjà eu le temps d'interagir avec son environnement, avec la société, de comprendre certaines réalités de la vie. Mais à 9 ans, 10 ans, la jeune fille, elle est encore enfant. Elle est encore dans son cocon d'enfant où c'est des jeux, c'est l'amusement. Au fait, la vie, elle n'y comprend rien. Elle voit la vie comme tout rose, quoi. Mais on ne peut pas dire que les menstrues sont le signe d'une maturité chez l'enfant, je vais dire.
Alors vous, André, en tant qu'homme, dites-nous, à quoi peut-on mesurer la maturité d'une femme indépendamment de son âge?
Non, déjà, c'est pas les menstrues à elles seules qui justifient cela. Il faut dire qu'on est mature, comme l'a dit Fatih elle-même dans la chronique. À son âge, elle était beaucoup plus mature que beaucoup de filles plus âgées ou moins âgées dans d'autres conditions. Donc, juste pour dire, il y a tout un ensemble. Mais c'est surtout l'environnement éducatif qui vous amène à votre maturité. Et les menstrues font partie du processus d'évolution ou de développement de la jeune fille. Donc, oui, certaines coutumes, malheureusement, pensent que, quel que soit l'âge, dès l'apparition de la première menstrue, on dit, bon, voilà, elle est prête pour procréer. Donc, voilà. Et ça, c'est vrai aussi. Si les menstrues sortent, ça veut dire qu'elle est prête. Maintenant, si son organisme est déjà mature pour accueillir et entretenir un enfant, un fœtus, je ne pense pas. Donc, il y a cette partie-là qu'il faut quand même réexpliquer aux populations ou aux gardeurs de coutumes, aux gardiens des coutumes, parce qu'eux aussi ne pêchent pas ignorance. S'ils savaient que l'apparition des menstrues ne veut pas dire que l'organisme de la fille, quel que soit son âge, est déjà prêt à accueillir une grossesse, je pense qu'ils vont mettre un peu je ne sais pas, ils vont réfléchir
balises.
Autrement.
Bon, je
ils vont
vois. Baliser Alors, mieux. Donc, vous soutenez le fait que c'est en quelque sorte quand même une erreur que de de permettre en fait de soumettre la jeune fille au mariage dès ses premières menstrues.
Absolument. Absolument, c'est même pas à relayer. C'est pour ça que j'ai dit j'aime bien la Connie, parce qu'il a présenté autrement. Il a vraiment présenté autrement. Et j'ai bien aimé l'attitude de la mère. Vrai, elle n'est pas instruite, mais elle prend sur elle la manière. Et puis, je ne sais pas comment elles ont su gérer pendant 2 ans. Déjà, la nature leur a donné la chance que les premiers menstrues de la fille, qui fait partie vraiment des cas rares, viennent à 16 ans et gérer dans un petit village où tout se sait, et même le père n'a pas su pendant 2 ans. Génial, chapeau à la mère.
Alors, Rosalie, la loi numéro 2015-08 portant Code de l'enfant en République du Bénin, en son alinéa 1, article 2 du chapitre 2, stipule qu'au terme de la présente loi, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans, ce qui sous-entend que toute personne âgée de 18 ans est considérée comme étant majeure. Et alors, pour vous, en quoi le fait de marier une jeune fille âgée de 18 ans constitue une faute ?
Âgée de moins de 18
ans. Une jeune fille qui a déjà 18 ans, la mariée, en quoi est-ce que cela est une faute?
Peut-être cela constitue une faute parce que cette jeune fille vient juste de sortir de la catégorie des enfants. C'est à 18 ans que l'enfant commence par se dire « Ah, apparemment, je ne suis plus quand même, j'ai plus 5 ans, j'ai traversé déjà... » une étape de ma vie. Donc, c'est en ce moment que l'enfant commence à prendre conscience du fait qu'il a grandi ou qu'elle a grandi. Donc, en même temps, la mettre en face de ce problème qu'est le mariage, alors qu'elle vient juste de sortir de son enveloppe d'enfant, ça peut créer des chocs émotionnels, psychologiques en même temps à l'enfant qui ne s'y est pas préparé. Et de là, ça commence... Elle commence par rester déjà à ne plus parler. Elle commence à devenir timide. Ça commence par les travailler ainsi de suite. Et quand elle subit des violences, elles n'ont plus cette possibilité de parler. Ça les fait en même temps penser au suicide. Donc pour moi, il faut laisser les enfants vivre leur enfance. Maintenant, laisser les enfants profiter de leur étape.
De leur adolescence.
Voilà, de leur adolescence. Même quand l'enfant quitte l'adolescence, lui laisser le temps de vraiment interagir avec la société, de vraiment prendre les marques, de prendre quand même le temps de se forger en adulte avant de les envoyer dans le mariage. Parce que le mariage, vraiment, c'est pas aisé. C'est pas aisé. D'accord. Même nos grands-parents le disent, c'est pas aisé pour qu'on... le mettre en face comme ça aux enfants.
D'accord. Alors, la jeune fille n'est pas toujours contre cette pratique. Et quand je me réfère à la chronique de Maudie Johnson, Fatih en question dit, je cite, « Le plus curieux de l'affaire, c'est que je ne regrette pas. » Pour vous, André, le mariage est-il toujours forcé dans ce cas?
Oui, forcé dans la mesure où ce n'est pas elle qui a choisi et qui est venue présenter aux parents. C'est les parents qui ont fait tout le processus. Elle découvre le fait. Et comme ils se connaissaient plus ou moins,
je pense que
sa réponse n'allait pas être ça si elle n'avait jamais rencontré, si elle n'avait pas enregistré quelque part des bébés pour lui. Donc, dire que je ne regrette pas parce que quand elle regarde autour d'elle, c'était le meilleur parti qu'on pouvait lui offrir. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, ça reste forcé parce qu'elle ne s'était pas engagée, elle n'avait jamais présenté, même quand elle parlait... elle ne le voyait, entre guillemets, pratiquement pas. Elle était plutôt peut-être partie vers l'enseignant ou son camarade de classe. Pas lui, quelles que soient ses conditions de vie qui étaient quand même réussissantes, dit-elle. Mais parce qu'elle trouve qu'il est mal, il s'habille mal malgré ses conditions. C'est comme s'il ne mange pas du tout. Bon, en fait, elle n'avait pas. Mais au finish, voilà, je suis forcée de prendre... Le parti qu'on me propose, ce n'est pas aussi mauvais. Je m'engage.
Mais alors, forcer la jeune fille à se marier, puisqu'on en parle, qu'est-ce qui justifie, selon vous, Rosalie, cette pratique? Pour quelles raisons, selon vous, certaines traditions sont amenées à marier très tôt les jeunes filles?
Bien, nous savons que dans notre cher pays, il y a une zone particulièrement où, selon la tradition, les parents soutiennent que c'est mieux de marier l'enfant jeune, la jeune fille, très tôt, pour éviter qu'elle tombe enceinte de quelqu'un, qu'elle tombe dans la débauche. Voilà. Et parce que chez eux, dans la tradition, souvent, il n'y a que marier sa fille. Qu'elle soit vierge, constitue
un honneur
pour la famille. Cela rend sa famille assez quand même protectrice. cela démontre que la famille a donné une bonne éducation à sa fille. Et il y a aussi que certaines familles, on dit qu'il faut marier l'enfant très jeune. Mais parfois même, les enfants sont donnés en mariage dès la naissance. Déjà à la naissance, la jeune fille, la petite fille plutôt, je dirais, elle a déjà un mari. Il y a déjà la famille de l'homme, du bébé garçon qui vient déjà demander la main de la petite fille qui vient de naître. Et le mariage est déjà scellé dès la naissance comme ça. Quand les enfants commencent à grandir, déjà à partir de 9 ans, on commence à préparer le mariage. Parce qu'on se dit, c'est telle famille que nous avons choisie pour des raisons que la famille seule connaît. On attribue déjà cette fille à tel garçon qui ne se connaissent même pas déjà. Et quand ces derniers grandissent, au fait, étant donné que c'est déjà la tradition, c'est comme si personne n'a plus de mot à dire. Qui peut se lever et dire que je suis contre la tradition? Si tu le dis, c'est comme si tu es considéré comme une abomination. Tout ce que tu dis, c'est comme une abomination. Donc, tu te retrouves à regarder tranquillement, à garder le silence et observer ça couler ainsi. Mais parfois, il faut dire que ça, y a la pauvreté aussi qui constitue l'une des raisons du mariage forcé. Parce que si les parents avaient vraiment les moyens de prendre soin de leur enfant, de scolariser la jeune fille, la suivre dans son cursus scolaire jusqu'à ce que cette jeune fille devienne quand même quelque chose de même afin de prendre soin d'elle-même. Je ne pense pas que les parents devraient la mettre directement dans un foyer sous précipitation. Mais quand on pense à tout ce que la belle famille va apporter, le nombre de bœufs, le nombre de maïs, sac de maïs, tout ça là, c'est ça qui contribue souvent au mariage.
Mais il y a quand même c'est cette pratique qu'on note quand même aussi chez certaines familles bourgeoises, parce que c'est une question aussi de consolider l'économie financière, c'est-à-dire que l'autre famille est riche, si nos enfants se marient, c'est l'économie, ça devient voilà, c'est ça en fait quoi.
Oui, bien sûr, il y a aussi cet aspect de consolidation des liens familiaux. Et par exemple, on dit en Inde, les bourgeois se marient entre eux et les pauvres se marient entre eux. Il n'y a pas souvent de mélange. La basse classe ne se marie pas avec la haute classe. Donc, il y a aussi cet aspect de consolider les liens de richesse, je vais dire, parce qu'il n'y a pas autre chose à considérer si ce n'est que la fortune dans chaque famille. Donc, les enfants deviennent maintenant une issue pour ces deux familles de conserver leur richesse. Parce qu'on dit, si tu vas chercher une fille qui vient d'une famille pauvre, elle viendra gaspiller notre fortune. Il y a tout ça là qui se dit, des préjugés, je vais dire. Mais en réalité, tout cela n'est que, c'est que de fausses bases, quoi.
D'accord. Alors, pour vous rentrer, quelles sont les causes qu'avez-vous à ajouter?
Oui, hein, comme elle a dit, et c'est vrai, il y a des causes et des conditions matérielles qui pèsent lourd dans la balance. Ça amène tout ce que ça amène. Et il y a aussi les questions d'honneur, de principe aussi, des parents ou de la société. Mais il y a essentiellement le rôle que la communauté ou les parents ou la société, bon, je vais plutôt partir sur la communauté, donne à la femme dans ce cas. Parce que dans le cas de Fatih, sa communauté pour les femmes sont là pour procréer. Pas pour exercer quel travail que ce soit, c'est pour procréer. Donc, elle-même, on l'a moulée dans le bain de l'école, ne nous apprend rien. Ça nous éloigne plutôt de nos us et coutumes. Et les femmes sont là pour obéir et pour procréer. Donc, vu comme ça, le rôle ou la première action à mener, c'est que dès qu'elle a la possibilité, la capacité de procréer, on l'envoie dans un foyer pour procréer et ça fait l'honneur de la famille. Maintenant, si par là, on peut trouver le moyen de, comment on appelle, améliorer ses conditions de vie en l'envoyant dans une bonne famille, et comme elle a dit, c'est la base de lui donner une bonne éducation pour que la famille riche puisse accepter de la recevoir et nous permettre, nous, de grandir. Donc, voilà un peu les causes, à mon avis. Mais j'avoue que ça doit être... Tout ça doit être plus ou moins mieux checké désormais, parce que le rôle de la femme change, le rôle de l'homme change dans la société est dynamique et évolue. Donc, les us et coutumes doivent aussi évoluer avec le développement.
Mais alors, Fatih a été obligé d'abandonner les classes pour s'occuper de son homme, celui qui lui a été choisi par sa famille. Pensez-vous que l'abandon des classes soit la seule conséquence issue du mariage forcé?
Non, pas du tout. Et déjà, abandonner les classes, ça appelle tout le reste. Elle a hypothéqué son avenir. Elle a hypothéqué sa personnalité et ce qu'elle pouvait être. Elle a hypothéqué par-dessus tout ou par le biais de elle, son nation, le meilleur parti, la meilleure éducation qu'elle pourrait donner à ses enfants. Et donc, c'est toute une chaîne. Cette simple décision pour elle qui semblait être le bon parti, en réalité n'est pas le bon parti pour ses enfants. Imaginons qu'elle n'a que des filles, qu'elle ne fasse que des filles. Donc, elles vont être mariées à 9 ans, à 10 ans, 11 ans. Et bon, voilà. Et elle, peut-être qu'elle n'aura pas la possibilité de protéger ses filles autant que sa mère. Si elle n'a que des garçons, etc. Voilà, elle a dit, son petit ami, après avoir engrossé une fille, a été obligé d'abandonner pour faire le champ, pour s'occuper d'eux. Donc, c'est une chaîne, j'ai envie de dire, on perpétue la pauvreté, en fait. Et ce n'est pas une bonne décision, ce n'est pas la décision à prendre. Je pense que le mieux, c'est d'aller au mariage soi-même. Mais mieux encore, ce que je vais dire peut-être va paraître un peu bizarre pour certains, mais laisser la jeune fille faire ses expériences. La vie est faite d'expérience. La preuve, on ne se lève pas du coup pour commencer par marcher. On titube, on tombe, on rampe. Et donc, permettez que dans la vie, tout se fasse ainsi. Qu'on fasse des erreurs, qu'on se relève, qu'on essaie encore, qu'on rechute, qu'on sait. Jésus même est tombé 3 fois. Il pouvait ne même pas tomber. Il est tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Encore que, peut-être que c'est plus que 3 fois. Donc, je n'en sais rien. Mais permettez qu'il y ait des erreurs et qu'on avance ainsi de suite. Donc, ne prenons pas des décisions ou ne poussons pas les filles ou les enfants à agir selon nous, notre conception. Ça, c'est grave.
Alors, l'ONG Assovie œuvre pour la défense des droits des femmes. Avez-vous déjà enregistré des plaintes de ce genre?
Ben oui, il y a quand même des... On peut pas dire non, mais directement lié à nos interventions, je crois que non. Non, parce que nous recevons plus ou nous avions un peu plus de mariages précoces ou de grossesses précoces. Mais que le mariage est forcé, non. C'est souvent les filles qui n'ont pas su se protéger, qui peut-être tombent enceintes et par ce biais vont dans le mariage. Mais avec tout le travail qu'on fait, nous, on est plus sensibilisation, médiation, négociation, éducation des parents.
Alors, que fait concrètement l'ONG Assovie dans ces situations-là?
Déjà, c'est expliquer aux parents leurs responsabilités, mais aussi ce qu'ils risquent comme sanction vis-à-vis de la loi. Et donc, d'amener, si c'est déjà fait, on ne peut plus rien faire, c'est maintenant d'amener à réparer ou à donner à l'enfant à reprendre sa place. Parce que moi, j'explique toujours, vous, parents qui avez envoyé l'enfant dans le foyer, vous n'allez pas vivre là-bas avec. C'est l'enfant qui n'est pas mature pour, qui va devoir subir tout là-bas. Donc, si vous ne laissez pas l'enfant prendre, occuper l'entièreté de sa place, vous ne serez pas toujours là. Vous-même, vous avez votre foyer à gérer. Donc, quand vous amenez les parents à prendre conscience, parce que je parle d'ignorance des parents quelquefois, quand vous les amenez à comprendre que, en fait, ils sont en train de porter un bagage qui, en plus de l'heure, va être trop lourd. Donc, déchargez-vous, laissez l'enfant porter ses bagages et porter les vôtres. Je pense qu'on arrive quand même à adhérer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et ce n'est pas une rencontre, deux rencontres, mais on arrive à avoir gain de cause.
Alors, une autre partie de la chronique de Maudy Johnson que nous allons analyser rapidement. Fatih dit qu'elle n'aime pas l'école parce qu'elle ne nous apprend strictement rien qui soit lié à l'évolution de nos milieux. Vous en avez parlé tout à l'heure. Pire, dit-elle, l'école dévalorisait la large majorité qui s'occupait des champs pour nourrir les autres. Puis elle conclut, non, l'école ne me plaisait pas par son contenu car elle ne nous donnait rien à appliquer et nous éloignait de nos parents. Qu'en dites-vous?
Je pense que là, Johnson sort la problématique de l'adaptation de l'éducation scolaire à nos conditions. Il ne sert à rien, et ça je répète bien, il ne sert à rien de copier, excusez-moi le mot, bêtement, ce qui vient de l'extérieur pour l'appliquer coûte que coûte ici. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir pour dire l'école de base, on va associer les métiers artisanaux, c'est ça, oui. Etc. Mais c'est ce que Fatih est en train de nous dire. L'école nous aurait appris à faire un peu de l'extérieur, mais à, comment dire, à cultiver encore plus nos richesses, nos valeurs culturelles, qu'on aurait fait le message des deux. On allait donner des citoyens quand même qui se plaisent dans leur peau. Mais c'est, elle le dit clairement, il faut se dénaturer, ou mieux encore, on dit souvent, pour nos parents ou nos grands-pères qui, les premiers, étaient des intellectuels, on les appelait plus ou moins des acculturés. Parce que quand ils reviennent, ils sont totalement découpés.
Les valeurs culturelles, vous parlez de valeurs culturelles. Nous en avons tellement une panoplie au Bénin. Comment pensez-vous qu'on puisse faire procéder à ce tarimage entre diverses cultures pour un apprentissage pour tous?
C'est ce que les autres ont fait. Les programmes, je vais dire, occidentaux que nous copions, que nous appliquons parce que c'est eux qui financent ceci, qui financent ça, ils ne l'ont pas fait en s'inspirant de nos valeurs à nous. C'est des valeurs... Bon, Jean Piaget n'a pas regardé comment naît un enfant, je ne sais pas, dans le fond du Niger ou dans le fond du Bénin, pour dire voilà comment il évolue et à telle étape, il faut lui appliquer telle stratégie. Non. Donc, ils se sont inspirés de leurs valeurs culturelles. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire là. Nous permettre, nous, d'adapter, vraiment d'arrimer l'école à ce que nous sommes. Et c'est seulement en faisant cela, en puisant dans notre base.
Est difficile pour nous, il est difficile pour nous déjà d'avoir une seule langue nationale au regard de la diversité de langues que nous avons. Vous pensez vraiment que ce tarimage est possible?
C'est tout ça. C'est tout ça. Mais regardez quelque part. Quelqu'un a dit, vous quittez du Bénin jusque, je vais dire même, au Ghana, vous avez les mêmes patrimoines. Vous avez les mêmes patrimoines culturels. Partez du sud là, longez la mer, jusque, vous ne verrez pas de différence pratiquement. Allez au nord, vous ne verrez pas de différence pratiquement. Oui, la langue change peut-être avec le temps, les échanges avec d'autres brassages, d'autres cultures, certaines choses ont changé, mais les bases culturelles restent les mêmes. Je prends un exemple simple, la manière, les dots par exemple. La différence du nord au sud, elle n'est pas grande. Peut-être quand vous arrivez chez les Peulous, on dit c'est plus les colas qu'il faut donner. Je dis n'importe quoi hein, parce que je ne maîtrise pas trop. Mm-hmm. C'est plus les colas qu'il faut donner. Pratiquement du centre jusqu'au nord, vous allez voir, toutes les cultures pratiquement vont faire les mêmes choses. Vous venez chez nous ici au sud, jusque vers Abomey, c'est pratiquement la même liste que tout le monde donne, les mêmes choses, à quelques différences près. Juste pour vous dire, les bases sont là. Les petites différences ou subtilités qui ont été ajoutées, on peut faire fi et partir. Donc, quand on regarde aujourd'hui au Bénin, quelle est la langue la plus parlée? Quelle est la langue la plus parlée? Est-ce que si on ne peut pas partir sur une langue, on peut partir sur deux? Et tout le monde sait que quand vous êtes au sud, il faut comprendre le fond. Tout le monde sait que quand vous êtes au nord, il faut comprendre Bariba ou je ne sais pas quoi. Mais tout ça, ce sont des questions aussi, je vais dire, politique. C'est pas évident. Mais en tant qu'éducateur, moi je pense qu'il faut revenir au fondamental. On ne peut éduquer que sur la base de ce que l'individu est, sur son identité. On ne peut pas créer deux identités. Quand ça ne se matche pas, ça ne se côtoie pas bien, après vous allez avoir des individus qui vont vous créer des problèmes.
Merci. Alors Rosalie, pensez-vous que les enseignements donnés à l'école devraient tenir compte de nos réalités et s'y adapter?
Oui et non. Je dis oui et non parce que dans un premier temps, nous avons vraiment une panoplie, comme vous venez de le signifier. Nous avons différentes cultures au Bénin. Et si on doit adapter chaque programme dans chaque zone, ça va être un travail qui prendra quand même un peu de temps. Je pense qu'on pourra quand même généraliser. Il y a quand même des règles de vie qui sont universelles. Il y a des règles de vie qui sont universelles qu'on peut toujours incorporer dans les programmes qui sont dispensés dans les collèges. Quand on prend par exemple l'ancien programme, moi, mes parents ont l'habitude de me dire que, ah, aujourd'hui, vous n'apprenez plus telle chose, éducation morale, éducation civique. Il y a toutes ces choses qu'avant, on apprenait à l'école. Le savoir-vivre, comment se comporter en société, il y a toutes ces règles qui sont apprises à l'école. Mais aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Je ne sais plus s'il y a encore des écoles publiques qui continue d'enseigner ces matières qui avaient disparu entre-temps. Quand on revient au secondaire, moi je prends particulièrement la matière qu'on appelle histoire et géographie. Normalement, on doit établir un programme et nous sauter la Russie et autres du programme. Ici, c'est l'Afrique et plus précisément, c'est le Bénin. Je peux prendre les 7 ans pour étudier mon pays. Ils doivent revoir, par exemple, ces programmes-là. Pourquoi ne pas insérer aussi des programmes d'apprentissage de langue dans nos programmes, dans les cours? Ce serait mieux que de chercher à nous mettre forcément dans la tête qui sont les héros des États-Unis. Revenons quand même à nos ressources. On peut étudier les histoires de tous les rois du Bénin. Il faut quand même apprendre à valoriser aussi ce que nous avons chez nous. Mais passer notre temps à nous expliquer comment telle personne de l'Europe a conquis tel territoire. Franchement, quand tu commences par apprendre tous ces trucs-là, parfois tu vas au cours, tu n'as pas envie de suivre le cours.
Ça vous envoie balader.
Voilà, c'est tellement ennuyeux.
Parce que ça ne va pas chercher quelque chose en toi.
Voilà, ça n'a aucun rapport avec ta réalité que tu vis. C'est sur ce point que moi je pense qu'on doit revoir les programmes. Adapter vraiment ce qui est de chez nous. Pour que, comme chez les Blancs, vous voyez, le petit garçon ou la petite fille est en mode observation. Quand l'enfant passe 2 ans à la maternelle, on arrive déjà à identifier ses points d'intérêt.
Son potentiel.
Voilà. Et c'est dans ça qu'on oriente. Si on voit qu'il est intéressé par tout ce qui est jouet de voiture et autres, on le coach dans ce domaine, peut-être pour qu'il devienne un ingénieur en automobile. Donc, je pense que c'est ce travail que nos CPE et nos supérieurs, nos experts doivent faire pour une meilleure éducation.
Alors, Rosalie, progressivement, nous allons vers la fin de cette émission. Mariage forcé de la jeune fille, que retenir?
Le mariage forcé, il faut retenir qu'un enfant, c'est tout individu qui a moins de 18 ans. Ça, il faut qu'on s'entende dessus. Maintenant, il faut que les parents rêvent grand. Quel que soit leur niveau de vie, si vous êtes pauvre ou que vous êtes riche, rêvez grand. Pensez à ce que vos enfants doivent faire mieux que vous. Et cela passe par l'éducation. Il faut veiller strictement à l'éducation des enfants. Veillez à ce que les enfants aillent à l'école pour avoir le minimum de bagage intellectuel. Si les parents des ministres que nous avons actuellement ou des rocades que nous avons actuellement se sont dit « mon enfant n'ira pas à l'école », ils n'en seraient pas là où ils en sont actuellement. Donc, je pense que la sensibilisation doit continuer. Il faut que nous continuions à sensibiliser les parents sur ce que le mariage forcé entraîne chez les enfants, chez la jeune fille qui va très tôt, telles que les violences, les viols, les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles. Il faut vraiment qu'on permette à ces enfants d'en apprendre suffisamment avant de se retrouver coincés entre les quatre murs d'un foyer.
Merci.
Et il faut continuer à vulgariser les lois. Punir sévèrement les contrevenants.
Merci.
Merci.
Et vous, André, que dire pour conclure?
Merci déjà pour l'invitation et pour le sujet. Vraiment d'actualité, très intéressant. Et je vais peut-être revenir rapidement sur un fait, c'est que il faut savoir que dans l'éducation, il y a trois moments. On va parler du savoir, qui est universel. On a besoin de savoir ce qui se passe aux États-Unis, en France, et se concentrer un peu plus sur chez nous, d'accord? Mais il y a le savoir-être. Ça va chercher dans l'intrinsèque de chacun. Donc, c'est plus centré sur qui vous êtes dans votre communauté, dans votre pays. Et il y a le savoir-faire. Vous allez faire le mélange de l'universel et de qui vous êtes pour quand même donner quelque chose et tout le monde va se retrouver dedans. Donc, je pense que sur cette base, qu'on réfléchisse un peu plus pour amener les choses. Et pour conclure, oui, moi, je pense que l'éducation de la fille doit rester encore une priorité. Pour moi, c'est simple. L'éducation étant déjà la solution ou le début de solution à tout problème, j'ai dit, de la société ou de l'individu. Éduquer une fille, quel est un enfant, fille ou garçon, il aura la chance d'avoir une meilleure éducation. Donc, dire qu'elles sont bonnes pour procréer alors que, dans le foyer, l'homme n'a jamais, depuis tout le temps, n'a jamais occupé le rôle d'éducateur ou d'éducation, de l'éducateur principal, je pense qu'il faut mettre encore plus de moyens sur l'éducation des filles et donner plus le moyen aux filles d'être mieux éduquées, mieux instruites et pour le bonheur de notre pays et tout le reste.
Merci beaucoup à vous. S'épanouir, s'instruire, la jeune fille le mérite bien amplement. J'ai toujours été convaincue qu'en éduquant une fille, vous donnez du pouvoir à toute une nation. C'est sur cette citation de Reine Rania de Jordanie, militante pour l'éducation des filles, que se referme votre émission Chronique en débat de ce jour qui a porté sur la problématique du mariage forcé. Merci d'avoir été des nôtres. Présentation Gloria Divessolé, cabine technique Ferdinand Zamba, réalisation Romuald Lobo, coordination éditoriale Ulrich Vital Arotondi. Disons non au mariage des enfants. C'est sur ce titre concocté par un collectif d'artistes béninois en collaboration avec l'UNICEF, que nous vous disons à la prochaine.
Boda sueton, pautuna no lanaye, ye kanaule, ye kanu ganu, boze na papa daole, e na gbazi da kona, bo vire no jaje ke twa supe mi gbe.
Iwo de mi pe ma duro ke ya iba. Iwo de mi pe ma duro we iba ba. Basa, balute un pa iba, pa ika ure ba.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Esper, comme l'a vu Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.